France Info.
Bonsoir à tous. Censure, résistance, les cris de colère des insoumis ont résonné ce matin à Paris lors d'un rassemblement en signe de protestation. Protestation après les convocations de Rima Hassan et Mathilde Panot. Les insoumis sont-ils des martyrs de la liberté d'expression? Cette colère est-elle légitime ou en font-ils trop? Haro sur les écrans pour les tout-petits. Un rapport préconise leur interdiction pour les moins de 3 ans et alerte sur leurs conséquences sur la santé des enfants. Les écrans, le mal incarné pour nos tout-petits. Mais les experts peuvent-ils s'inviter dans les appartements? Et puis, des rémunérations stratosphériques, des écarts de salaire indécents. Le dernier rapport d'Oxfam révèle que les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne 130 fois plus que leurs salariés en 2022. Est-ce légitime quand on dirige une entreprise mondiale ou faut-il s'en offusquer? Faut-il encadrer ces salaires? On en parle avec nos informés ce soir, Mickaël Darmon, éditorialiste à i24 News. Vous publiez Le Pape et la Matriarche aux éditions Passé Composé. Laurent Mouloud, rédacteur en chef adjoint à l'Humanité. Stéphane Zumsteg, directeur du département Opinion et Politique d'Ipsos. Et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Veut-on museler la France insoumise après les convocations de Rima Hassan et Mathilde Panot ce matin, entendues pour apologie du terrorisme? Les insoumis appelaient au rassemblement contre la censure dans la foulée et le débat s'est prolongé ensuite à l'Assemblée. Écoutez cet échange houleux entre Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux.
Dans un pays que vous connaissez bien, on convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. On tente de dissoudre un collectif de jeunes qui se mobilisent face à l'urgence climatique. Est-ce dans la Russie de Vladimir Poutine? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron.
On va se dire les choses très clairement, monsieur le député Bompard. Après le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas que vous soutenez, j'ai pris une circulaire pour que l'on puisse réprimer les propos antisémites qui se sont développés. J'ai eu raison de le faire. Des gens qui se sont sentis victimes ont déposé plainte. La justice a donc été saisie et elle dira ce qu'elle a à dire. En toute
Manuel Bompard qui compare la France à la Russie. Laurent Mouloud, la colère des insoumis, elle est légitime ou ils en font trop là?
Je ne sais pas s'ils en font trop. Moi, c'est surtout le terme, là, c'est le ministre, je crois, qui parlait. Attaque terroriste que vous soutenez, c'est le terme du ministre de la Justice, semble-t-il, qu'en répondant à Emmanuel Bompard, je trouve que pour le coup,
c'est cela qui vous choque.
Extrêmement excessif, extrêmement disproportionné. Et je trouve que tout dans cette histoire est disproportionné.
L'attaque terroriste du Hamas, les insoumis ont fait polémique après cette attaque terroriste qu'ils avaient qualifiée d'offensive des forces armées palestiniennes.
Tout à fait, mais...
Et la classe politique dans son ensemble avait condamné le fait que c'était pas
tout
assez...
Tout à fait, mais qu'on puisse critiquer ce communiqué, il n'y a aucun problème là-dessus, mais qu'on dit que vous soutenez, et c'est les propos qui viennent de dire une attaque terroriste que vous soutenez, les termes sont importants. Il ne s'agit pas d'un soutien à une attaque terroriste. Un communiqué, il peut être effectivement complètement... peut-être mal écrit, critiqué, etc. Et la justice le dira. Moi, les termes que j'entends, soutenir une attaque, c'est quand même extrêmement grave, je trouve, aussi dans un autre sens. Donc je dirais que moi, dans cette affaire, il y a une espèce de disproportion de poursuivre comme ça, effectivement, des personnages publics, politiques, en pleine campagne électorale, aussi de laisser faire, on va dire, des convocations devant la justice ou devant au commissariat, sur cette question d'apologie du terrorisme. Je trouve ça complètement disproportionné.
Et je vois de la tête Mickaël Darmon. Donc si on écoute Laurent Mouloud, c'est vrai, il y a une dérive autoritaire de ce gouvernement?
Non, il n'y a pas une dérive autoritaire, il y a tout simplement le fait qu'effectivement on respecte l'état de droit et les lois qui existent puisque la justice a été saisie, donc l'affaire est instruite. Mais enfin, je note quand même que pour crier à la censure, au fond, les protagonistes de cette affaire du côté de LFI sont ressortis libres, ne sont pas emprisonnés, peuvent continuer à dire ce qu'elles veulent. Emmanuel Bompard peut se lever et critiquer le gouvernement de la nationale. Donc on est effectivement dans un théâtre qui n'est pas, qui est dénoncé. En revanche, je trouve que Manuel Bompard doit remercier au fond le pouvoir, parce que il met en lumière, je dirais, il met sur la sellette, il désigne comme ennemi dans ce moment de campagne électorale LFI, ce qui est quand même un cadeau.
Vous voulez dire qu'il leur rend service parce qu'il les victimise?
La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Mathilde Panot et Erim Hassan sont-elles convoquées avec force, scénographie dramatique, pour pouvoir répondre éventuellement de délits sur l'apologie du terrorisme? On est quand même en pleine campagne électorale. De qui ne parle-t-on plus depuis quelques jours? On ne parle plus de la droite, on ne parle plus de la gauche, on ne parle plus de la liste de la gauche. On parle uniquement des insoumis qui, au fond, peuvent permettre aussi de jaillir sur et d'être présent sur le terrain de cette campagne. Donc je pense qu'il y a quand même une forme d'instrumentalisation à double niveau, parce qu'effectivement, quelque part, on voit bien que l'Iran s'amuse aussi à bien manipuler les étudiants à Sciences Po et ceux qui soutiennent le Hamas, parce qu'effectivement, il y a quand même un soutien. Mais il y a aussi une instrumentalisation du pouvoir qui sertit quelque part, je trouve, une colère bien appropriée.
Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes d'accord? Finalement, ça dessert l'exécutif, toute cette agitation, cette judiciarisation autour des insoumis. Il faut rappeler qu'il y a eu aussi des conférences de Jean-Luc Mélenchon qui ont été annulées. Une ministre qui porte plainte contre Jean-Luc Mélenchon, qui avait comparé un président d'université à un nazi. Est-ce que tout cela, finalement, c'est pas contre-productif pour ceux qui veulent combattre les insoumis?
Mais je crois qu'il faut distinguer les cas. Il y a des procédures, des plaintes qui ont été déposées, des convocations qui se font dans le cadre de ces plaintes-là. Après, il y a des décisions effectivement prises par les autorités de l'État. Enfin, même si ce sont des préfets, on imagine mal sur des événements. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Moi, je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron avait pu dire « il faut que chacun puisse s'exprimer » et le préfet du Nord derrière qui prend une décision d'interdiction. Je ne crois pas une seconde que le préfet ait pris cette décision-là sans en avoir référé à minima au ministère de l'Intérieur. Donc oui, il y a une double instrumentalisation. Ce sont les insoumis qui ont mis en scène leur convocation. Ce n'est pas le parquet qui a communiqué sur la convocation des insoumis. Mais je crois effectivement que cette judiciarisation du débat politique est profondément toxique. Il faut que la parole politique puisse être libre pour que eux puissent dire effectivement ce qu'ils veulent, même si c'est choquant, même si c'est parfois insoutenable, mais pour qu'on puisse aussi répondre, parce que le piège est là, qu'on puisse aussi répondre non, peu importe que la justice vous blanchisse ou non, vous êtes dans l'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme et dans une forme d'ambiguïté vis-à-vis du Hamas. Et donc cette liberté d'expression, elle me semble absolument majeure. Il faut la défendre, parce que de toute façon, on ne sauve jamais la démocratie avec des juges. Mais après, sur le côté ridicule de hurler au régime autoritaire, regardez ce qui se passe dans les États arabes. Il y a des manifestations dans les États arabes. En Jordanie, il y a eu plus de 1500 arrestations. Il y a des gens qui sont en prison au Maroc. Il y a des gens qui sont en prison. Ça se compte par centaines en Égypte.
Oui, on parle de mots qui sont lourds de sens.
Non mais voilà.
Et parfois on se demande s'ils ont encore du sens.
Non mais soyons sérieux. Quand Rima Hassan, on a l'impression que quasiment elle est prisonnière politique et ce matin elle sort de sa convocation en disant tout s'est bien passé. J'ai envie de lui dire choisis ton camp, hein. Parce que soit on est dans un régime autoritaire, soit tout s'est bien passé. Mais les deux sont pas compatibles. Il faut être cohérent.
On va en reparler de cette liberté d'expression et des insoumis qui soutiennent aussi les étudiants de Sciences Po. Et on vous donnera la parole, Stéphane Zumsteg. Tout de suite, c'est le Fil Info. Il est 20h11 avec Emmanuel Langlois.
Et la mobilisation pro-palestinienne dans les universités françaises qui prend de l'ampleur après Paris, le campus de Sciences Po à Menton dans les Alpes-Maritimes est fermé jusqu'à nouvel ordre après l'occupation des locaux par des étudiants. Par sécurité, le site de Sciences Po Toulouse a lui aussi fermé ses portes. D'autres étudiants se sont mobilisés à Lyon, Grenoble ou encore à Dijon. Et puis aux États-Unis, l'université Columbia de New York, elle menace de renvoyer les étudiants qui occupent un bâtiment depuis plus de 2 semaines maintenant. Une enquête a été ouverte après des menaces de mort adressées avant-hier à 2 magasins hyper-cachère parisiens, à une synagogue dans le Val-de-Marne. Ces menaces interviennent en pleine fête de Pessah, la Pâque juive qui prend fin ce mardi. À l'étranger, un adolescent de 14 ans a été tué, 4 personnes blessées dans l'est de Londres par un homme armé d'un sabre. L'assaillant a rapidement été maîtrisé par la police et arrêté. Les autorités britanniques excluent à ce stade tout acte terroriste. C'est une étape importante enfin vers la fin du recours aux combustibles fossiles réunis en Italie. Les pays du G7 ont décidé de supprimer progressivement d'ici à 2035 toutes les centrales électriques au charbon non munies de dispositifs de captage de carbone.
France Info.
20h, 21h, les informés, Agathe Lambray.
Toujours en compagnie de Mickaël Darmon, éditorialiste à I24 News, Laurent Mouloud, rédacteur en chef adjoint à l'Humanité, Stéphane Zumsteg, directeur du département Opinion et Politique d'Ipsos, et puis Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. On parlait des insoumis, on peut s'interroger sur la méthode des insoumis. Je voudrais que vous écoutiez l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka.
Moi, ce qui me choque, c'est que il y a un appel à aller manifester de la part d'une députée avec son écharpe devant le palais de justice.
Ça, c'est plus choquant. Ça, c'est un problème. C'est quoi?
C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est un non-respect de l'institution judiciaire, de la séparation des pouvoirs. On n'a jamais vu ça.
Stéphane Zumsteg, les Insoumis, ils portent atteinte à la séparation des pouvoirs en faisant ça?
Non, probablement pas. Je pense que c'est très exagéré aussi. Après, pour se poser la question de savoir si, finalement, cette victimisation, ce sentiment d'être victime d'un déni de justice va marquer l'opinion publique, je ne pense pas, parce que les Français et les Françaises sont habitués systématiquement à ce que quand un homme politique ou une femme politique ou un parti politique est incriminé par la justice, de toute façon, il crie systématiquement au déni de justice. Regardez Nicolas Sarkozy qui a fait ça pendant des années. Donc, ça n'aura sans doute pas d'impact. Ça n'est
parfois
pas lié.
Parfois, ça les renforce, mais pour l'instant, dans les sondages, les Insoumis aux Européennes,
ils sont pas très en forme.
Mais c'est aussi un choix, parce que là, on peut revenir à la stratégie qui a été choisie de conflictualité de la France Insoumise. L'idée, elle est très claire. C'est cliver, cliver, cliver. Vous l'évoquiez tout à l'heure. La France Insoumise, aujourd'hui, la liste de Manon Aubry se trouve dans un contexte préélectoral très défavorable. La NUPES n'existe plus. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a fait 22% et a échoué à l'élection présidentielle et a échoué de uniquement 400 000 voix pour accéder au second tour. Aujourd'hui, sa liste, la liste de Manon Aubry, est créditée d'un score décevant. Mais c'est traditionnel pour la France insoumise aux élections européennes. Là, l'idée, c'est que je ne pense pas qu'ils ont...
Il veut enjamber les européennes, Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon a été très clair. Lors du meeting de lancement de la liste de Manon Aubry, il explique que c'est le début de la campagne pour l'élection présidentielle. Bien sûr qu'ils savent déjà que leur score, quel qu'il soit, sera probablement décevant. En revanche, il y a quand même cette idée de construire l'après et d'assumer finalement que les réservoirs de voix de la France insoumise ou de Jean-Luc Mélenchon se trouvent auprès de la jeunesse ou d'une partie de la jeunesse et dans certains quartiers là où il y a beaucoup de musulmans. Je doute de l'efficacité, en tout cas pour les élections européennes, de cette stratégie parce qu'il s'agit de populations qui en général s'abstiennent beaucoup, notamment aux élections européennes.
Michel Darmon, vous vouliez réagir ?
Oui, il est clair que Jean-Luc Mélenchon a décidé qu'il voudra être encore candidat à l'élection présidentielle et il tente de faire le lien entre les bobos wokistes qui peuvent se retrouver sur les campus et en particulier à Sciences Po avec les quartiers populaires où le vote communautariste, musulman, pro-musulman peut s'affirmer et s'est affirmé. Mais de ce point de vue-là, on voit bien qu'effectivement ça n'est pas pour l'instant susceptible d'être, générateur de rassemblement à gauche. Il faudra très certainement s'attendre à des soubresauts au lendemain du 9 juin, au lendemain du scrutin européen, où très très certainement il y aura donc des bruits, des voix qui vont s'élever maintenant au sein de LFI, qui vont vouloir régler les comptes et montrer que cette stratégie n'est pas du tout efficace et même se démarquer très clairement de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on entend de plus en plus dans les coulisses.
Manuel Valls, ancien Premier ministre, appelait d'ailleurs à former un cordon sanitaire autour de Jean-Luc Mélenchon. Laurent Mouloud, les Insoumis, ils sont aussi en première ligne, donc pour soutenir les étudiants pro-palestiniens à Sciences Po, et Rima Hassan, qui est candidate aux européennes pour la France Insoumise, a appelé au soulèvement, et elle assume ce terme. Est-ce que c'est normal qu'une candidate à des élections appelle au soulèvement ?
Je ne sais pas si appeler au soulèvement, en tout cas, elle appelle à une résistance, en fait, et à un soutien. Oui, oui, non, mais c'est peut-être le terme de soulèvement aussi.
Mais une résistance contre quoi ?
Une résistance aussi pour le soutien. Il y a quand même quelque chose qui sort aussi du débat public, c'est la notion de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Il y a depuis plusieurs jours, etc. Tout tourne autour, effectivement, des accusations autour de la France insoumise. On a l'impression que ce qui se passe, et le drame qui se passe à Gaza, avec quasiment 35 000 morts, n'existe plus dans le paysage médiatique. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui à Sciences Po, ce sont aussi des étudiants qui ne veulent pas que ce débat-là et l'attitude du pouvoir israélien soient passés sous le boisseau, soient tués. Et c'est cette résistance-là à laquelle Rima Hassan aussi appelle, tout simplement, sans arrière-pensée antisémite, disqualifiante évidemment dans le débat public.
Vous êtes d'accord, Jean-Sébastien Ferjou, parce que je vous entendais réagir.
Je ne vais pas rentrer dans les arrière-pensées de Rima Hassan, mais enfin, je pense qu'elle a montré suffisamment d'ambiguïté vis-à-vis de l'existence même d'Israël pour qu'on puisse en douter. Et maintenant, je pense qu'il ne faut pas évidemment criminaliser le soutien à la cause palestinienne. Et il n'est pas tu. C'est d'ailleurs complètement absurde dans les revendications des étudiants de Sciences Po de vouloir rompre, par exemple, les liens avec les universités israéliennes, qui bien souvent en Israël sont les lieux où il y a le plus d'opposants à la politique de Benjamin Netanyahou. Je n'entends pas non plus les étudiants de Sciences Po réclamer la rupture des liens de Sciences Po avec le Qatar, hein, dans un même registre, ni d'ailleurs avec d'autres États. Donc quand même, il y a une obsession par rapport au caractère juif d'Israël. Je pense que personne ne peut soutenir l'inverse. Les Nations Unies ont alerté sur le fait qu'il y avait un risque de entre 500 000 et 1 million de morts au Soudan, de morts de faim à court terme. Est-ce que quelqu'un en parle ? Donc je vous dis pas ça, il s'agit pas de minimiser ce qui se passe à Gaza, c'est une tragédie pour les civils palestiniens. En revanche, moi je conteste totalement la rhétorique et celle de Rima Hassan et celle des leaders des étudiants, pas de tous les étudiants eux-mêmes, certainement beaucoup sont de bonne foi, mais la rhétorique qui consiste à dire que c'est un soutien, non, il y a d'autres manières de vouloir faire pression sur la situation. On peut aussi demander des comptes, évidemment qu'on peut demander des comptes en Israël, mais en Israël, vous savez, il y a des procédures qui sont ouvertes pour crimes de guerre. Est-ce que vous avez entendu parler de procédures ouvertes pour crimes de guerre à Gaza? Est-ce que le Hamas va un jour aller poursuivre des gens pour crimes de guerre? Vous voyez bien que le simple fait de poser la question montre à quel point tout ça est absurde. On ne fait pas pression non plus, je vous le disais, sur le Qatar. Le Qatar est impliqué pourtant dans les négociations sur les otages. Le Qatar paye les salaires des fonctionnaires de Gaza. Donc pourquoi se préoccuper seulement d'Israël? Le sujet n'est pas de vouloir faire pression sur Israël. Ça peut se comprendre. Le sujet est de le faire exclusivement sur Israël en employant le mot que je trouve extrêmement choquant de génocide. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de génocide? Derrière l'idée de génocide, il y a l'idée, c'est le mal absolu. Et donc le mal absolu, qu'est-ce qu'on fait? On l'éradique. Et donc derrière, on est en train de dire qu'on élimine Israël. Voilà, appelons un chat un chat.
En fait, les inversions de propos, ils sont effectivement à l'œuvre depuis le terme, depuis quelques jours après le 7 octobre. On a d'abord été sidéré, on a rendu hommage aux Israéliens qui étaient plutôt dans mauvaise posture. Mais quand les Israéliens se sont mis à répondre, alors là, on a tout de suite demandé, exigé de la retenue immédiatement et de pouvoir retenir cette force-là. Moi, ce qui me frappe surtout dans cette affaire de Sciences Po, c'est un peu la vacuité géopolitique des étudiants qui ne connaissent rien de la carte et des évolutions du Proche-Orient, parce qu'au fond, soutenir la cause palestinienne, c'est pas illégitime. Redemander de revitaliser les accords d'Oslo, qui était une négociation avec Yasser Arafat, le Fatah de Yasser Arafat, c'était absolument légitime. C'était d'ailleurs une très belle période.
Pourquoi ils ne connaissent rien?
Parce qu'en fait, ils sont pris dans cette instrumentalisée par une rhétorique, comme l'a dit effectivement Jean-Sébastien, qui les aveugle complètement. Alors, que la gauche soit aveuglée historiquement, on s'en souvient, ça peut arriver. Sartre soutenait bien l'URSS pendant un temps.
Et Michel Foucault, la révolution islamique iranienne.
On a soutenu les maoïstes. Donc, quelque part,
on
peut se dire que c'est une erreur, un moment de jeunesse, une période de jeunesse. Je pense que c'est un peu plus profond que ça. Mais ce qui me frappe, c'est à quel point, au fond, c'est vrai, on ne demande pas des comptes au Hamas d'avoir été capable de rendre aussi, avant le 7 octobre, une population aussi malheureuse depuis 20 ans.
Vous dites qu'il y a un deux poids, deux mesures, et on en reparle juste après le fil info d'Emmanuel Langlois. Il est 20h20.
À Châteauroux, une marche blanche en hommage au jeune Matisse, 16 ans, tué samedi dernier à coups de couteau au cours d'une rixe, sera organisée samedi après-midi dans le centre-ville. Annonce du maire de Châteauroux aujourd'hui. Dans cette nouvelle affaire de violence chez des mineurs, un adolescent de 15 ans a été placé en détention provisoire hier soir. Sa mère est-elle poursuivie pour violence volontaire sur personne vulnérable? Le Conseil d'État rejette, lui, un recours en référé déposé par l'UNSA Éducation, le syndicat UNSA, contre l'arrêté créant des groupes de niveau en mathématiques et en français à partir de la rentrée prochaine au collège. Les juges estiment en effet qu'il n'y a pas d'urgence à statuer. La croissance en hausse très modérée, 0,2% de plus au premier trimestre en France grâce à un réveil de la consommation des ménages, alors que l'INSEE prévoyait une stagnation. Le gouvernement y voit un signe de la solidité de l'économie du pays. Et puis à l'étranger, la Russie affirme avoir abattu 6 missiles ATACMS, l'arme de longue portée récemment fournie à l'Ukraine par les États-Unis. La semaine dernière, Washington avait en effet annoncé avoir envoyé ces missiles à l'Ukraine, qui les réclamait de longue date afin de pouvoir frapper plus profondément derrière la ligne de front.
France Info. 20h, 21h, les informés, Agathe Lambret.
Toujours en compagnie de Mickaël Darmon, éditorialiste à I24 News, Laurent Mouloud pour l'Humanité, Stéphane Zoubseg, directeur du département Opinion Politique d'Ipsos, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Stéphane Zoubseg, vous disiez tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon visait plutôt la présidentielle, qu'il voulait enjamber les européennes. Il y en a d'autres qui aimeraient enjamber ces européennes, la majorité par exemple. Est-ce qu'il y a le feu?
Oui, bien sûr, il y a le feu. Il y a même aujourd'hui un gouffre quand on regarde les différentes mesures qui peuvent être réalisées par les différents instituts de sondage. Dans la dernière enquête qu'on a réalisée pour Le Monde, 32% pour la liste de Jordan Bardella, 17% pour celle de Valérie Ayé. On verra ce que ça donnera. Il y a encore une campagne. On sait très bien que les Français, en général, se mobilisent au dernier moment pour les élections qui sont censées les intéresser le moins par rapport à d'autres, par rapport notamment à la présidentielle ou aux législatives. Mais là, c'est un gouffre. Imaginez qu'il y ait un tel résultat au soir du 9 juin. Ce serait évidemment, non pas une déroute, mais une catastrophe électorale pour le parti présidentiel. Et on peut se poser des questions sur la configuration des 3 années qui resteraient pour Emmanuel Macron. Mais le vrai problème que rencontre aujourd'hui la Macronie et donc la liste qu'il incarne, c'est la mobilisation. Il y a des fuites, vers la droite un petit peu, il y a des fuites, on pourra en reparler du côté de Raphaël Glucksmann, parce que enfin, il y a un espace un peu social-démocrate, pour prendre un terme un petit peu éculé, qui s'est dégagé pour ces gens de centre-gauche qui ont massivement voté pour Emmanuel Macron en 2017, qui ont encore revoté pour lui en 2022, mais qui ont été particulièrement échaudés par ce qui s'est passé lors de la réforme des retraites et lors du vote de la loi immigration. Ces gens-là étaient un petit peu perdus, un petit peu déçus par cette droitisation constante du programme présidentiel. Et là, il y a un vrai espace. Donc, il y a des fuites, mais il y a un problème encore plus grave que ces fuites électorales vers Raphaël Glucksmann, c'est le degré de mobilisation. Il y a des déçus, il y a deux façons de manifester sa déception. Vous votez pour quelqu'un d'autre ou alors vous vous abstenez. Et aujourd'hui, le niveau de mobilisation des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron il y a 2 ans à l'élection présidentielle, eh bien, ce niveau de mobilisation, il est très faible, il est anormalement faible. Et c'est un vrai problème, d'autant plus que cette liste court finalement deux risques. C'est être terriblement distancé par la liste de Jordan Bardella et être éventuellement rattrapé, ou en tout cas frôlé par celle de Raphaël Glucksmann, ce qui reste une éventualité.
Et on va reparler de Raphaël Glucksmann, mais d'abord, l'exécutif semble conscient qu'il y a le feu. Premier comité politique de campagne ce soir, une sorte de task force qui se réunira tous les lundis avec des ministres. C'était l'information d'Aurélie Herbemont. Il y a Jean-Sébastien Ferjou. Le gouvernement, la majorité, peut-il changer la donne? Qu'est-ce qu'il doit faire là pour relancer cette campagne qui patine?
En tout cas, la carte Emmanuel Macron n'a pas beaucoup marché, parce qu'on avait cru comprendre que le discours de la Sorbonne, le discours 2 de la Sorbonne, après le premier épisode il y a 5 ans ou 6 ans, était censé marquer véritablement le début de la campagne. Manifestement, ça n'a pas produit dans les sondages, en tout cas dans ceux qui sont faits quotidiens, qui ont été faits après ce fameux discours. Donc effectivement, ça va être très compliqué, parce que je pense qu'il y a un gouvernement qui n'a pas très envie de prendre des coups sur cette campagne-là, parce qu'il voit qu'elle est très mal engagée. Et de toute façon, Emmanuel Macron a toujours tendance à considérer qu'il n'est jamais mieux servi que par lui-même. Sauf que cette fois-ci, ça ne marche plus. Ça avait pu marcher un peu quand il était venu au secours de Nathalie Loiseau en 2019. Ça ne marche plus aujourd'hui. Il est même probablement devenu un contre-argument pour la majorité présidentielle. En plus, je pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été faites, parce que les espèces de côtés de propos excessifs, vous vous souvenez, Valérie Ayé a commencé sa campagne avec Munich 1938. Enfin, je pense que les Français...
La stratégie, c'est la diabolisation du RN. Voilà. Aujourd'hui, ils essayent un peu de
les Français ne sont plus dupes de ces... Surtout, ils en mesurent en plus la forme de duplicité, parce que c'est parfois en disant la même chose que le RN, que le gouvernement... les traites de... Enfin, pas sur la question de la Russie, mais les traites de fascistes du jour. Donc, il y a un sujet Emmanuel Macron. Il a nommé Gabriel Attal probablement pour faire face, y compris au risque Raphaël Glucksmann d'ailleurs. Ça ne fonctionne pas et surtout, je ne crois pas que Gabriel Attal ait envie d'aller prendre des coups sur le sujet. Gabriel Attal, il prépare son avenir à lui. La grande différence, c'est qu'avant, Emmanuel Macron avait un moyen de pression sur sa famille politique parce que lui avait encore un avenir. Là, il n'en a plus. Donc, les gens qui sont autour de lui, ils veulent pas couler avec le Titanic Macron, ils préfèrent préserver leur image parce que peut-être ont-ils un avenir en 2027.
Sauf que Gabriel Attal, il va débattre, il avait décidé de pas débattre et finalement il a accepté l'idée d'un débat avec Jordan Bardella, Laurent Mouloud. Il peut changer la majorité, sauver la majorité Gabriel Attal.
Ouais, il fait un virage à 180 degrés là, de sa position qu'il a exprimée il y a 10 jours en disant... Sous pression, j'imagine. Je ne débattrai pas.
Il reprochait de se cacher un peu. Donc
Surtout, il trouvait que c'était pas son rôle. Premier ministre, il n'était pas candidat aux élections européennes. Pourquoi débattre avec un des candidats aux élections européennes, candidat lui-même qui refuse de débattre avec tous les autres candidats aux élections européennes.
Donc, et est-ce que c'est son rôle pour...
Et du coup, il était assez logique finalement sur cette position-là. Mais on voit bien qu'il y a panique à bord, effectivement, du côté de la Macronie. Et qu'il y a besoin aussi d'exister médiatiquement et de sauver le soldat hier. Et il faut absolument redonner un petit peu de vision et de combat politique. Et je pense qu'on a demandé à Gabriel Attal de remplir ce rôle-là, et il s'y plie, quoi.
Et qu'est-ce qui se passe, Michaël Darmon, avec Raphaël Glucksmann? On en parlait tout à l'heure. Il y a un dernier sondage Ipsos qui donne Raphaël Glucksmann à 14%. Valérie Ayé, 2 points juste au-dessus de lui. C'est quoi? C'est une bulle médiatique ou c'est un espoir pour la social-démocratie?
Non, je crois que ça va être l'agent d'ambiance de la gauche non mélenchoniste qui va réveiller cet espace politique. Et ensuite, en fonction du score final qu'il obtiendra, parce que là, on est encore que dans des sondages, eh bien, une partie des socialistes non mélenchonistes, d'une partie de l'ex-feu NUPES va tenter très certainement d'en tirer profit et de pouvoir proposer une contre-offre au sein donc du Parti Socialiste notamment. Là aussi, il y aura certainement des congrès, un congrès qui va être assez chaud parce qu'il y aura une course contre la montre entre Olivier Faure qui dira « ben voilà, c'est le résultat de ma stratégie » et puis d'autres qui diront « ben c'est le moment de pouvoir maintenant le sortir et faire en sorte de récupérer le PS et pouvoir réorganiser un corpus d'une union de la gauche sans Mélenchon. Donc on va avoir toute une série de processus en fait qui vont démarrer au lendemain de ce scrutain.
Et on peut-être évoquait, une reconfiguration politique.
Et on évoquait il y a quelques instants celui du président de la République, mais tout simplement on verra si à la fin, manifestement c'est en train de se préparer, sa volonté de montrer qu'il était encore audible sera actée ou pas. Pour l'instant, il n'a pas échappé à la malédiction du deuxième discours. Hein. Vous savez, il faut jamais faire les deuxièmes discours. Nicolas Sarkozy avait fait le Toulon 1 pour la crise. Quatre ans plus tard, il avait fait le Toulon 2. C'était un échec total.
Et vous Emmanuel dites Macron échec de la
n'a pas échappé 2. À cette malédiction.
Et dans ce contexte, un mot, Jean-Sébastien Ferjou, les Républicains essaient de sortir la tête de l'eau. Ils ont dévoilé une partie de leur liste pour les européennes avec quelques anciens qui font leur retour. Nadine Morano, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, 6e position. Brice Hortefeux, ancien ministre lui aussi, 7e position. Est-ce que ça, c'est de nature à relancer leur campagne? Et comment vous expliquez que, enfin, alors que la droite n'a jamais été aussi haut, les Républicains n'ont jamais été aussi bas?
J'ai peine à répondre parce que l'hypothèse que ça puisse relancer leur campagne me paraît tellement improbable que je ne sais même plus quoi vous en dire. Non, mais je pense que les Républicains se sont suicidés en réalité en faisant le choix de ne pas avoir de champion à la présidentielle. Les institutions de la 5e République font que si vous n'avez pas de champion présidentiable, vous êtes éliminé. Et encore plus parce que comme là, il n'y avait pas de chef, alors il y a un imam caché, Laurent Wauquiez, mais enfin, il n'a, semble-t-il, même pas réussi à imposer certains de ses choix sur la liste. Donc on voit bien que ça n'est pas un chef incontesté. Bah, ça ne marche pas. La droite est un canard à 1000 têtes. Enfin, je ne sais pas s'ils en ont 1000, mais peut-être à 5 têtes. Vous avez Gérard Larcher, Olivier Marleix, Éric Ciotti, justement Laurent Wauquiez, et ça ne fonctionne pas. Ils ont fait un pari qui ne fonctionne pas. Je ne suis pas certain qu'ils puissent s'en relever. Et il y a un match dans le match aussi, hein, parce qu'il y a un match avec Reconquête. Chacun joue un peu sa survie dans ce match-là. Le choix de François-Xavier Bellamy avait été un peu conçu comme le fait de vouloir assécher finalement cet électorat qui était parti chez Éric Zemmour, parce que sociologiquement, ce sont deux électorats très proches. Là encore, au soir du 9 mai ou du 9 juin, pardon, ou au matin du 10 juin, je pense que les couteaux seront de sortie. Enfin, pas au sens physique, vous m'aurez compris.
On va passer maintenant à...
Je ne peux plus en parler.
On va passer maintenant à tout autre sujet, même si la politique n'est jamais très loin. On va parler des écrans et des enfants dans un instant. Après, le point sur l'info, il est 20h31 avec Édouard Marguier. Et bonsoir Edouard.
Bonsoir Agathe, bonsoir à tous. Entre 120 et 150 000 personnes sont attendues demain dans les manifestations du 1er mai. C'est en tout cas ce que prévoient les renseignements territoriaux. 270 rassemblements sont annoncés un peu partout en France. Et notamment à Paris où entre 400 et 800 manifestants violents sont attendus selon les autorités. Autre mobilisation en cours dans les facultés, les rassemblements pro-palestiniens à Amiens, Toulouse, Strasbourg et région parisienne aujourd'hui, et d'autres blocages seront organisés à nouveau jeudi selon la porte-parole de l'Union étudiante. Ce mouvement a débuté aux États-Unis à l'université Columbia de New York. Occupé un bâtiment de cette faculté, la mauvaise approche, critique un porte-parole de la Maison-Blanche ce soir, des étudiants ont bravé l'ultimatum pour cesser leur mouvement en occupant une aile de cette université dans le centre de la ville américaine depuis la nuit dernière. 4 semaines après l'agression de Samara près de son collège de Montpellier, l'enquête administrative n'a relevé aucun manquement fautif de la part de l'établissement. ni n'a pu établir de harcèlement scolaire, contrairement à ce qu'affirme la famille, résultat donné par le ministère de l'Éducation aujourd'hui. Le fossé se creuse entre les patrons du CAC 40 et leurs employés. En 2022, ils ont gagné en moyenne 130 fois plus que le salaire moyen dans leurs entreprises. Résultat d'un rapport d'Oxfam France, la directrice générale de l'ONG, Cécile Duflot, demande sur France Info à encadrer cet écart. Dans une demi-heure, on entrera dans le dernier carré de la Ligue des champions de football. Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid, coup d'envoi 21h. Et demain, autre match en Allemagne à nouveau, le Paris Saint-Germain qui sera sur la pelouse du Borussia Dortmund.
France Info. 20h, 21h. France Info, les informés, Agathe Lambray.
Toujours en compagnie de Mickaël Darmon, journaliste à I24 News, Laurent Mouloud, rédacteur en chef adjoint à l'Humanité, Stéphane Jemsteg, directeur du département opinion et politique d'Ipsos, et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico. Haro sur les écrans pour les tout-petits. Un rapport d'experts commandé par le président préconise notamment d'interdire l'usage des écrans au moins de 3 ans. Alors c'est un rapport qui alerte sur l'hyperconnexion subie des enfants et ses conséquences sur leur santé. Bonsoir Sabine Duflot.
Bonsoir.
Vous êtes notre experte à distance ce soir, psychologue clinicienne, fondatrice du collectif Surexposition Écran et auteure du livre « Il ne décroche pas des écrans, comment protéger nos enfants et nos adolescents aux éditions de l'Échappée ». Est-ce que les conclusions de ce rapport vous étonnent ?
Alors, on est agréablement surpris parce que ça fait à peu près depuis 2020 qu'on réclame, outre une prévention, une législation. Et notamment les recommandations reprennent en grande partie ce que notre collectif soutient depuis de nombreuses années, à savoir pas d'écran du tout pour les moins de 3 ans, un usage très limité entre 3 et 6 ans et avec des contenus éducatifs et visionnés en présence de l'enfant. Et pour ce portable, une interdiction d'un portable connecté à Internet jusqu'à l'entrée au lycée et en remplacement un téléphone, c'est-à-dire sans connexion Internet.
Mais pourquoi Sabine Duflot, concrètement, dites-nous quel est l'impact vraiment des écrans sur le cerveau des petits-enfants ?
En fait, la principale compétence que l'enfant a à construire, que le petit homme a à construire, se construisent dans une interaction avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Ses principales compétences, c'est le langage, un langage de communication hein, et pas de répétition. C'est une capacité d'attention volontaire, focalisée, et c'est une régulation du comportement et régulation socio-émotionnelle. Ces quatre compétences principales ne peuvent se développer que dans une interaction avec un adulte qui est disponible pour l'enfant. C'est pour ça que de réglementer l'usage des écrans, il faut toujours commencer par réfléchir à l'usage des adultes qui s'occupent de l'enfant, à savoir les parents, mais aussi tous les personnels en charge des enfants et des adolescents.
Vous restez avec nous, Sabine Duflot. On va faire un petit tour de table avec nos informés sur le principe. Est-ce que vous êtes d'accord à interdire les téléphones au moins de 3 ans? Ou est-ce que quelqu'un est pour les écrans pour les enfants? Ici, il faut dire que parfois, il faut le reconnaître, pour certains parents, c'est pratique aussi d'apaiser son enfant en le mettant devant un écran. Jean-Sébastien Ferjou.
C'est pas une raison pour le faire d'ailleurs, juste parce que c'est pratique. Moi, je trouve que ce sont des débats qui sont très utiles parce que ça sensibilise à la question justement de l'impact cognitif des écrans. Et il faut savoir le reconnaître, ça a été conçu pour être addictif, hein, pour générer une addiction physiologique.
C'est un business, disent les experts.
De toute façon, nous vivons dans une économie de l'attention et oui, c'est conçu pour capter véritablement l'attention. Après, l'interdiction, je la trouve ridicule. Enfin, c'est totalement grotesque. Il va y avoir des agents de l'État qui vont venir chez vous, à mettre de la reconnaissance faciale pour savoir si vous êtes... Et je pense que le vrai sujet, il y a une forme de paresse intellectuelle à aller vers cette interdiction parce qu'on confond le contenant et le contenu en quelque sorte. Alors, je ne vous parle pas des très jeunes enfants, hein, mais Il faut surtout former les parents et les aider, les accompagner, y compris les équipes de l'éducation nationale aussi, parce que des fois on dit, ah ben, il faut lutter contre le harcèlement. Mais si vous êtes un professeur, qu'est-ce que vous faites quand le harcèlement il se passe sur des boucles Snapchat? Parce que vous ne voyez pas les boucles Snapchat, vous pouvez intervenir dans ce que vous voyez dans la cour d'école. Et tout ça, il y a une espèce de renoncement des pouvoirs publics en disant finalement, ah ben, tiens, on va interdire, sûrement que ça va gérer le problème. Bah oui, tiens, t'as qu'à croire, ça va gérer le problème. On peut interdire les couteaux peut-être aussi, puis on verra s'il n'y a plus d'attaque. Enfin, vous voyez bien que c'est absurde.
Non, mais je rebondis sur ce que vous dites, parce que justement,
très important que tout le monde soit conscient de l'impact cognitif que ça a sur les enfants, soit conscient aussi en matière d'attention. D'attention, nos attentions, mais à tous, hein, aux adultes aussi. Nous ne sommes plus capables d'avoir une attention soutenue sur le long terme, parce que des vidéos TikTok, des Reels sur Facebook, etc., c'est une succession de choses de 30 secondes. Et donc, regarder ne serait-ce qu'une émission d'une heure, ou regarder même un film plutôt que de regarder des épisodes d'une série, eh ben, ça devient difficile. Alors, lire un livre, je vous en parle même pas, c'est valable pour toute la société. Et donc, pour le coup, je rejoins ce que disait Madame Duflo, c'est-à-dire que ça n'a de toute façon pas de sens si les parents eux-mêmes, on pourrait toujours l'interdire ou dire ne fais pas ci, mais si les parents eux-mêmes passent leur temps à avoir le nez sur des écrans, de toute façon ça ne change rien. Donc ayons plutôt une réflexion collective sur notre usage, une exigence sur les algorithmes, parce qu'on oublie beaucoup l'impact des algorithmes. Les algorithmes, ça change énormément de choses. C'est pas tant le contenu que pourquoi tel ou tel contenu. Les enfants, par exemple, sur TikTok, il suffit de 20 minutes passées sur TikTok, 20 minutes pour qu'un adolescent, enfin, ou un jeune enfant soit confronté à des contenus qui font la promotion de l'anorexie, du suicide, des armes à feu, des drogues. 20 minutes. Mais ça, c'est les algorithmes. Ça, c'est les pouvoirs publics qui ne demandent pas de compte aux géants des réseaux sociaux sur les algorithmes. C'est pas en soi les écrans, c'est comme la télé. Hein. Vous pouvez regarder, ou c'est comme un livre, ou c'est comme la presse. Vous pouvez lire Mein Kampf, comme vous pouvez lire un livre qui vous alerte sur les dangers du nazisme. C'est pas l'objet livre en soi qui est l'enjeu.
Sabine Duflo, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Sébastien Ferjou? Il faut demander des comptes aux réseaux, aux plateformes? Faut aller plus loin?
Alors, excusez-moi, ça saute un peu le son. Ce que nous disons, ce que dit le cause et ce que dit d'ailleurs, je pense, ce rapport, dont je n'ai lu que la synthèse, hein, ça fait 142 pages, c'est, contrairement à ce que dit votre invité, ça n'est bien sûr pas une interdiction au sein des familles. Ce que nous disons, nous, dans le cause, c'est qu'il faut prendre le modèle sur ce qui a été fait pour le tabac ou l'alcool. Ce sont des deux substances dont on connaît depuis très longtemps les effets secondaires néfastes, en particulier chez les mineurs, mais des politiques de santé efficaces sont intervenues quand on a légiféré concernant les mineurs. Et on n'a pas légiféré dans les familles, bien entendu. On a légiféré dans l'espace public,
forcément les familles qui sont,
interdisant
qui sont
l'achat
pour
un mineur d'alcool ou l'achat... Alors, rien n'interdit, bien entendu,
les
parents de faire
voir
les enfants dans les familles, mais à partir du moment où on donne où c'est interdit pour un mineur, ça envoie un signe à la famille sur lequel elles vont pouvoir s'appuyer. Et c'est ce qu'elles disent. Elles disent toutes, elles demandent armes dans la famille. Elles disent il faut que l'État donne exemple en interdisant, par exemple, vous voyez, l'achat d'un portable pour un moins de 15 ans, un portable avec connexion Internet. Voilà. Et puis, l'autre chose, votre invité parlait des réseaux sociaux, etc. Alors, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux et des méfaits. Il n'y a pas que ça, que les contenus que les enfants aiment. Mais je crois qu'on a parlé beaucoup parce qu'on ne peut pas faire grand-chose dessus. S'il n'y a pas de réseau, grand réseau sociaux français. En revanche, par exemple, les jeux vidéo qui ont été reconnus par l'OMS en 2018 comme engendrant un comportement d'addiction, les jeux d'argent, on n'en parle pas, je pense, pour des raisons financières, parce que, par exemple, en 2022, c'est 5,5 milliards de chiffre d'affaires en France, à peu près 1200 entreprises, donc ça, c'est passé sous silence.
Vous voilà. Restez avec nous.
Parler des contenus, de la différence de contenu, ça, c'est un peu ridicule. On sait bien que ce que les enfants regardent et aiment regarder, c'est des contenus éminemment addictifs. Quand vous allez voir un médecin, un addictologue, il vous demande... est-ce que vous buvez? Et bien entendu, on sous-entend, est-ce que vous buvez du vin? Il ne va pas vous demander, est-ce que vous buvez de l'eau?
Alors, merci à Sabine Duflo, vous restez avec nous. On en reparle juste après avec Mickaël Darmon, que j'ai vu sauter sur sa chaise quand vous vous exprimiez. Ce sera après le Fil Info à 20h41 avec Emmanuel Langlois.
Après la remise d'un rapport à Emmanuel Macron sur l'utilisation des écrans, l'éducation nationale doit balayer devant sa porte sur le sujet, estime Gabriel Attal devant les députés. Le Premier ministre qui prévient que certaines politiques vont devoir être repensées sans plus de détails. Le rapport préconise notamment l'interdiction des écrans pour les plus jeunes et leur encadrement pour les adolescents. Un braquage près de Lyon, un fourgon contenant des bijoux de luxe a été attaqué par quatre hommes cagoulés, toujours en fuite. Il était 8h ce matin à Rieux-la-Pape, le camion banalisé venait d'être chargé en bijoux provenant d'une joaillerie. Il a été bloqué par deux voitures avant d'être incendié. Le préjudice atteint au moins 560 000 euros. À l'étranger, avec ou sans accord de trêve, Benjamin Netanyahou promet que l'armée israélienne entrera dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Les pays médiateurs attendent toujours, alors qu'il est une réponse du Hamas, le mouvement islamiste, à une proposition de trêve de 40 jours associée à une libération d'otages retenus dans la bande de Gaza, proposition émise par l'État hébreu. Et puis le football, avec la première demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est à 21h ce soir, en attendant bien sûr demain soir le choc, le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Borussia Dortmund en Allemagne.
France Info. 20h, 21h, les informés, Agathe Lambret.
Toujours en compagnie de Laurent Mouloud, rédacteur en chef adjoint à l'Humanité, Stéphane Zumsteg de l'Ipsos, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico et Mickaël Darmon, éditorialiste à i24 News. Je vous voyais réagir vivement en entendant cette idée d'interdire, de légiférer, de rentrer dans... Enfin, est-ce qu'il ne faut pas envoyer un signal aux parents, comme disait Sabine Duflo? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un mode d'emploi? Vous trouvez ça naïf ?
Non, c'est pas de la naïveté. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, au fond, il n'y a pas, de la part des associations et de tous ceux qui ont fait des travaux très importants pour attirer l'attention, au fond, une demande, cette fois-ci, de mode opératoire, de décision opérationnelle. Parce que les associations, la personne qu'on vient d'entendre, Madame Duflo, est très contente parce que les recommandations sont reprises par l'exécutif et qu'il y a eu un rapport qui a été transmis au président et qui reprend leurs recommandations. Et ensuite, et demain ? On a entendu le chef du gouvernement qui a dit les politiques devront changer sans donner de détails.
Vous voulez dire qu'on ne se donne pas les moyens d'y arriver ?
Pas du tout. Et d'abord, une fois de plus, l'interdiction pure et simple. Madame reprenait l'exemple de l'alcool et du tabac. C'était du coercitif.
Oui,
donc de ce point de vue-là, on ne voit pas pourquoi on aurait un autre mode opératoire si on veut interdire des portables. Et comment peut-on le faire ? Je dis bon courage pour l'exécutif qui va essayer d'interdire les portables. Ensuite, il y a effectivement, une volonté de l'exécutif de poser une fois de plus le discours d'autorité.
Et voilà. Donc pour vous, c'est de la communication, en fait.
Complètement.
Emmanuel Macron veut faire de ce sujet des réseaux sociaux un marqueur ?
Écoutez, comment dirais-je ? Il y a eu plusieurs conventions citoyennes dont on a vu les résultats plus ou moins aléatoires après les effets d'annonce. On a vu qu'il y a plusieurs gadgets politiques qui ont été lancés sans lendemain. Donc je pense qu'on est sur une volonté générale de l'exécutif de poser régulièrement le sujet de l'autorité, de l'interdiction, de la répression, parce qu'il y a un moment politique extrêmement crucial qu'on est en train de vivre en ce moment, et qui est effectivement une société française qui est à bout et qui demande beaucoup d'autorité.
Vous êtes d'accord, Laurent Mouloud ?
Pas du tout. Non. si. Sur certains aspects, non. Mais par contre, je suis pas aussi pessimiste que vous. Moi, je trouve que l'initiative de faire ce rapport est plutôt salvatrice, de donner des repères précis aux parents sur des tranches d'âge, sur ce qu'on peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, ou en tout cas ce qui n'est pas souhaitable. C'est pas un sujet aussi anodin et évident que ça. Et moi, pour l'avoir vécu personnellement dans mon parcours de père aussi, je pense que à une certaine moment de la vie, on tâtonne aussi sur ce qu'il faut faire avec les enfants. Avoir un discours un peu construit scientifiquement, comme ça l'est ici, qui vient de la part de l'État aussi, c'est pas n'importe quel interlocuteur, qui dit ça à l'ensemble des parents français, je trouve ça plutôt quelque chose de positif.
Mais qu'est-ce que ça aurait changé pour vous, l'interdiction, par exemple ?
Qu'est-ce que ça aurait changé, en fait, c'est qu'on est parfois démunis sur ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut arrêter de supprimer un portable ? À quel âge il faut le donner ? C'est des débats aussi qu'il peut y avoir entre parents. Et moi, je pense, entre 0 et 3 ans, ça paraît tellement évident pour la plupart des gens que, quelque part, il n'y avait pas tellement de débats là-dessus. Mais c'est quand on arrive au collège, évidemment, à 11 ans, au moment où l'adolescent construit aussi sa personnalité et que les réseaux sociaux sont un endroit de sociabilisation et d'identification aussi aux autres adolescents, ça devient un combat et une difficulté, une lutte pour savoir ce qu'il faut faire et comment, où placer
placer le curseur entre l'interdiction et l'autorisation, entre la prohibition qui forcément évidemment a contre qui aura un effet boomerang et le tout laisser faire en disant ça va se réguler par eux-mêmes comme le marché libre. Eh bien, il y a une, j'imagine que ces rapports-là apportent aussi de la réflexion là-dessus, apportent aussi des repères qui sont peut-être pas des choses à prendre au pied de la lettre pour tout à chacun, mais en tout cas qui donnent aussi des repères importants pour pouvoir mettre en place de l'éducation aussi à la fois des parents si on veut, et également aussi des prises de conscience des enfants eux-mêmes et des jeunes avec qui on peut en discuter et sur des choses concrètes.
Sabine Duflo, d'un mot avant de vous laisser, qu'est-ce que vous attendez de ce rapport maintenant? Quelle suite vous en attendez?
J'attends qu'il y ait des applications évidemment concrètes. Je suis toujours étonnée de pour rejetant tout aspect contraignant dans l'éducation, parce que il n'y a pas de la protection des enfants, elle passe. On ne protège pas un enfant sans interdire, quoi. Et tous ces discours qui rejettent toute interdiction sont des discours qui malmènent grandement l'enfance.
Mais je crois qu'il ne faut pas confondre le fait d'interdire un enfant et le fait d'interdire
dès qu'on a un portable des 3-4 ans, c'est vraiment maltraitant. Être exposé de l'hyperviolence, des scènes de décapitation en série, comme je vois des jeunes des 10 ans, 9 ans qui voient ça sur Telegram ou d'autres, c'est extrêmement maltraitant. Alors, tous les discours qui rejettent toute législation, toute protection sont des discours qui sont très maltraitants pour l'enfant.
Voilà,
les parents ont bien constaté les effets de, ils sont pas idiots, ils ont essayé plusieurs choses avec les enfants, de discuter, etc. Mais à cause du caractère éminemment addictif de ces applications, du manque de repères, eh bien, ils sont perdus. Et je le répète, il faut un exemple de l'État, comme on l'a fait le tabac ou pour l'alcool.
Vous voulez réagir, Jean-Sébastien Ferjon?
Non, mais oui, parce que je pense que, alors là, j'ai certainement jamais fait partie des gens qui contestaient le fait qu'il fallait un cadre et assumer un principe d'autorité dans l'éducation. Je pense qu'il ne faut pas confondre le fait d'interdire quelque chose à un enfant et le fait d'interdire quelque chose à un adulte. Parce qu'encore une fois, je veux bien que Madame Duflo m'explique qu'avant 3 ans, ça ne concerne pas les familles. Ben évidemment que si, ça concerne les familles. Qui contrôle l'usage d'un écran par un enfant de 3 ans, à part les familles? Enfin, faut arrêter de dire quand même des choses absurdes. Quant au fait de regarder des vidéos de décapitation, pardon, moi aussi, je suis père, moi aussi j'ai des jeunes enfants, ça dépend quand même totalement de l'éducation que vous donnez à vos enfants, ça dépend du contrôle, ça dépend, il peut aussi y avoir des activités éducatives, ça se fait dans d'autres pays, enfin franchement on est en train de s'enfermer, mais dans des débats déjà qui en termes de liberté publique mais sont effarants, mais vraiment en termes de liberté publique sont effarants. Après, je continue à penser que le fait d'alerter, de faire de la pédagogie sur l'impact cognitif, sur l'impact, sur l'addiction effectivement que ça génère, ça c'est extrêmement important.
Merci beaucoup, merci Sabine Duflo, psychologue clinicienne, fondatrice du collectif Surexposition Écran. Merci d'avoir été avec nous. On va laisser les écrans, les tout petits, pour ce soir, et on va s'intéresser aux très grands patrons. Sont-ils trop payés, nos grands patrons? Alors la question est récurrente, mais elle a ressurgi au regard du dernier rapport de l'association Oxfam, un rapport qui révèle que les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne 130 fois plus que leurs salariés en 2022. Inacceptable pour la patronne d'Oxfam France, Cécile Duflo, cette fois écoutée.
Avec un écart qui est délirant, en fait, si on y réfléchit, puisque 130 fois plus, c'est pas raisonnable par rapport aux efforts fournis par les uns et les autres. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que si cet écart augmente, c'est parce qu'en fait, les dirigeants sont remerciés par les actionnaires de distribuer massivement des dividendes. Et si cette distribution de dividendes se fait, c'est au détriment des salariés.
Je vais vous laisser à tous les quatre une minute pour réfléchir et pour répondre. On se retrouve après le fil info d'Emmanuel Langlois. Il est 20h50.
Entre 120 000 et 150 000 personnes attendues demain dans les différents cortèges du 1er mai, fête du travail organisée en France. D'après une note des renseignements territoriaux, en tout, ce sont 270 rassemblements qui sont annoncés sur l'ensemble du territoire. À Paris, par exemple, 15 à 30 000 personnes sont attendues, dont 4 à 800 éléments à risque, selon cette note des renseignements. À Montpellier, 4 semaines maintenant après l'agression de Samara, à proximité de son collège, l'enquête administrative n'a révélé aucun manquement fautif de la part de l'établissement. Elle n'a pas non plus établi de harcèlement scolaire, contrairement à ce qu'affirme la famille de Samara. Une enquête judiciaire est par ailleurs toujours en cours. Jean-Christophe Thierry, c'est son nom, le président du conseil de surveillance du groupe Canal+, prend provisoirement
le poste de PDG du groupe Lagardère après la mise en examen hier soir et l'abandon de ses fonctions aujourd'hui de son dirigeant Arnaud Lagardère. Il est poursuivi pour le financement présumé de dépenses personnelles par ses sociétés. Enfin, l'étranger, Anthony Blinken, de retour en Israël. Le chef de la diplomatie américaine veut faire pression en faveur d'une trêve entre l'État hébreu et le Hamas. Il avait estimé un peu plus tôt dans la journée en Jordanie que le mouvement islamiste palestinien devrait accepter la proposition israélienne de cesser le feu et de libération des otages qu'il détient à Gaza. La réponse du Hamas est toujours attendue ce soir.
France Info. 20h, 21h, les informés. Agathe Lambray.
Toujours en compagnie de Mickaël Zarmon, éditorialiste à I24 News, Laurent Mouloud, rédacteur en chef adjoint à l'Humanité, Jean-Sébastien Ferjou, fondateur, directeur d'Atlantico, et Stéphane Zumsteg, directeur du département opinion et politique d'Ipsos. On entendait à l'instant la patronne d'Oxfam, Cécile Duflo, Stéphane Zumsteg. Ça semble complètement délirant pour le commun des mortels, ces rémunérations. Et en même temps, on parle d'entreprises qui brassent des milliards, d'entreprises mondiales. Est-ce que si une entreprise veut le meilleur dans son domaine, finalement, ses salaires ne sont pas justifiés ?
Ben, en tout cas, c'est pas ce que pensent les Français hein, dans les différentes enquêtes qu'on a pu mener. D'ailleurs, ce qui est le plus gênant dans le rapport de l'Oxfam, finalement, c'est que cet écart entre le salaire des patrons et le salaire moyen de leurs salariés se creuse encore davantage. Je crois que c'était 40 fois en 1979, c'est ce que j'ai lu dans leur rapport aujourd'hui. C'est 123 fois le salaire moyen d'une entreprise aujourd'hui pour les patrons du CAC 40. Et
oui,
dans
le
contexte très particulier, aujourd'hui, jamais la sensibilité à l'égard du pouvoir d'achat et du niveau de salaire des salariés n'a été aussi élevé. Il y a aujourd'hui un vrai mécontentement. L'inflation est passée par là. Il y a ce sentiment qu'ont les Français que de toute façon les salaires n'ont pas suivi, et c'est une réalité de toute façon, et qui renvoie une fois de plus à une société bloquée. Et si on essaie de voir ça avec un peu plus de recul, finalement, d'une valeur travail qui a régressé. Le travail ne paye plus. C'est en tout cas l'état d'esprit de plus en plus de Français, avec les conséquences électorales ou préélectorales que l'on connaît.
Laurent Mouloud, c'est une question de salaire stratosphérique des patrons ou une question de réduire les écarts entre les patrons et les salariés ?
C'est une question d'écart, en fait, de répartition de richesse, tout simplement. Vous avez, sur 3 ans, je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois que c'est plus 27% pour les patrons du CAC 40, je crois que c'est plus 9%
pour les salariés.
On est dans un contexte d'inflation, de pouvoir d'achat en berne, etc. Et ces chiffres sont évidemment indécents. Et derrière, moi, je trouve que ça va assez loin, ça pose un problème aussi de cohésion sociale, quelque part, d'avoir un tel écart, une telle inégalité de revenus dans des entreprises où les salariés participent aussi de la richesse de cette entreprise. Si ces entreprises du CAC 40 marchent aussi bien, c'est parce que aussi les salariés aussi jouent le jeu, entre guillemets, de cette entreprise par des actes de formation, parce qu'ils sont adaptés à une nouvelle stratégie, etc. Les salariés ont aussi leur savoir-faire qui est en jeu là-dedans. Et cette inégalité de récompense sur le salaire est absolument indécente, en fait. Et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, ça pose effectivement des problèmes assez graves derrière. Moi, je pense que c'est structurel sur la manière dont ces patrons du CAC 40 sont rémunérés.
Et dernièrement, c'est le salaire de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui a fait polémique. 36,5 millions d'euros en une année, 100 000 euros par jour. Carlos Tavares qui a répondu, faites une loi si ça vous pose un problème. Mickaël Darmon, il faut encadrer les salaires, limiter les salaires des patrons.
Je ne sais pas si c'est avec une loi, mais ça montre bien l'échec de tout un projet politique qui était au fond celui qui héritait du gaullisme, du partenariat, de la capacité de pouvoir répartir les richesses, de pouvoir les mettre en actionnariat salarié. Tout ce point de vue-là, tous ces discours politiques sont aujourd'hui totalement inopérants lorsqu'on voit ces résultats. Il y a un grand patron d'une grande entreprise française qui est basée à Clermont-Ferrand, qui il y a quelques jours a annoncé le fait qu'il mettrait un salaire décent.
Exactement, c'est le patron de Michelin.
Pour pouvoir dire effectivement qu'il y a cette intuition-là, qu'il y a une profonde injustice, et ce sentiment effectivement d'injustice profonde qui existe au sein de la société française, elle est matricielle au fond des années qu'on vient de vivre. Ce sont les gilets jaunes qui ont été aussi poussés dans la rue parce qu'ils avaient ce sentiment d'injustice. Cette colère, elle est restée, elle est maintenue, et effectivement, on voit bien que les années avançant, on a toujours ce même fossé qui existe. C'est la raison pour laquelle il y a une défiance à l'égard des politiques, de l'abstention, la montée des populismes, les prochains résultats électoraux, il ne faudra pas s'étonner, c'est aussi fonction de cette situation qui est acceptée par tout le monde.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, le salaire décent que Michelin a mis en place pour ses 132 000 salariés dans le monde, un salaire entre 1,5 et 3 fois le SMIC. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que tous les grands patrons ne devraient pas faire ça? Vous considérez que le SMIC, c'est un salaire décent, vous?
Mais tout dépend où vous vivez. Et après, il y a beaucoup de gens qui, si on augmentait le SMIC, seraient exclus du marché du travail. On a suffisamment parlé de la smicardisation et de son impact, précisément parce qu'après 15 ans, 20 ans d'ancienneté, vous gagnez toujours quelque chose d'assez proche du SMIC, ce qui génère aussi, je pense, largement plus d'ailleurs de ressentiment que les inégalités dans l'absolu, qui, rappelons-le, n'ont pas augmenté en France. Hein. Les données officielles, OCDE, les coefficients Gini montrent que les inégalités ont... assez peu augmenté en France. Après, sur des salaires 130 fois plus élevés, moi je vais vous dire, à titre personnel, oui, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule de vouloir toujours plus d'argent comme ça. Enfin, même pour tout dire, je trouve ça assez vulgaire, en fait.
Mais comment l'expliquer que ces salaires se soient creusés encore plus?
Parce qu'il y a deux choses. On confond déjà les patrons qui sont les fondateurs de leur entreprise et des richesses fantastiques quand vous êtes détenteur du capital avec des patrons qui ne sont que des managers et qui ont voulu finalement rattraper les premiers dans la catégorie. Il y a aussi autre chose comme limite dans le raisonnement d'Oxfam qui est l'inégalité entre salariés. Parce que quand vous êtes salarié du CAC 40, vous n'êtes pas un salarié à plaindre en France. Les salariés qui ont infiniment moins de droits ou des salaires moins élevés, ce sont les salariés qui sont dans les PME. De toute façon, vous pouvez toujours appliquer cette mesure-là, ça n'enlèvera pas cette inégalité-là. Et surtout, c'est prendre la logique à l'inverse, c'est prendre la logique à l'envers. Le problème, c'est comment faire en sorte que ceux qui gagnent moins gagnent plus. Mais ça, c'est une logique de création de richesse, parce que même si vous divisiez le salaire du patron par le nombre, les dizaines de milliers de salariés qu'il y a dans un groupe du CAC 40, ça ne changerait rien à leur vie à eux. Donc l'enjeu, c'est comment on fait pour que l'économie française permette de produire plus de richesse pour les autres. Après, encore une fois, moi je trouve ça assez moralement, oui... vulgaire de vouloir gagner autant d'argent.
On pourrait en parler pendant des heures, vous étiez intarissable ce soir. Jean-Sébastien Ferjou, la une d'Atlantico demain.
Mais on revient justement sur les écrans notamment et sur le fait qu'il y a peut-être des approches, tout en rappelant à quel point c'est une addiction, à quel point c'est un impact cognitif, mais des approches peut-être un peu plus subtiles, un peu plus dans la nuance que celle qui a été exposée dans le rapport du groupe présenté.
Et la une, c'est une très longue, et la une de l'UMA, Laurent Mouloud.
Alors demain, il n'y aura pas d'UMA dans les kiosques, parce que c'est le 1er mai, et ça sera le jour de la fête des travailleurs, mais par contre, on aura l'Humanité Magazine dans les kiosques jeudi, où on parlera des traités européens et de ces traités qui nous maltraitent. C'est le titre du magazine.
Merci à vous, merci à Mickaël Darmon pour I24 News et Stéphane Zumsteg pour l'Ipsos. Merci d'avoir été là. Demain, les informés reviennent à 9h avec Salia Braclia et Renaud Dely. Nous, on sera là à 20h.